Juliette par Marie Écart. Il y a 2 ans et demi, M. Charles Ferrière, jeune homme riche, de fort bonne mine et qui n'avait que 25 ans, rencontra dans le monde Madame de Chevigny, jeune femme de 20 ans, d'une beauté remarquable et d'un esprit qui ne le cédait pas à sa beauté. Il en devint éperdument amoureux. C'était son premier amour et ce devait être l'unique. Quel est l'amoureux qui ne pense pas ainsi? Il résolut de mettre tout en œuvre pour faire partager son amour. L'entreprise était difficile, car Madame de Chevigny avait un mari. M. Ferrière rougissait d'avance du rôle qu'il se préparait à jouer, séduire une femme, tromper un mari. Tout cela répugnait à sa franchise et mêlait d'avance son amertume à la grandeur de son premier amour. Pourquoi n'avait-il pas connu Madame de Chevigny 2 ans plus tôt? Il se serait mis sur les rangs et l'aurait sans doute emporté sur son rival. Cependant, Madame de Chevigny, mariée contre son gré, était coquette, et elle ne vit pas sans plaisir les visites du jeune homme qui fut bientôt admis dans son intimité. Il y avait auprès de la porte cochère de l'hôtel habité par Madame de Chevigny une espèce de banc en pierre occupé le matin par une laitière et le long du jour par une petite fille qui déguisait mal sa mendicité, tantôt en tressant quelques brins d'osier, tantôt en vendant des écheveaux de fil dépareillés ou des aiguilles de rebut. Juliette, c'était son nom, avait 15 ans. Mais ses traits maigres et allongés, son teint maladif, sa taille qui n'était point encore développée, lui en auraient fait donner 12 ou 13, tout au plus. De grands yeux noirs, pleins d'intelligence et d'expression, des cheveux de jais cachant mal un front flétri, voilà les seuls attraits de la petite mendiante et ses chétifs avantages, qu'un peu de soin et de santé eussent fait ressortir, n'embellissaient pas Juliette. La misère est si laide. M. Ferrière, dont le cœur palpitait dès qu'il entrevoyait la porte de Madame de Chevigny, passait d'ordinaire sans remarquer Juliette. Un jour, il leva par hasard les yeux sur elle. La petite fille rougit et fit signe au jeune homme de ne pas entrer dans cette maison dangereuse. M. Ferrière, distrait ou ne comprenant rien aux signes de Juliette, passa outre et monta chez Madame de Chevigny. Le mari était avec elle et paraissait de très mauvaise humeur. M. de Chevigny pouvait ouvrir les yeux et remarquer ses assiduités. Cette visite était une imprudence. Il se souvint alors des signes de la petite mendiante et pensa que l'amour ingénieux de Madame de Chevigny avait placé Juliette là exprès pour l'avertir. « Que je suis étourdi, se dit-il, je la compromets par mon peu de soin. Autrefois, les amoureux croyaient même aux présages. Moi, je ne me rends pas à des signes certains, je n'entends pas le langage le plus clair. » Il se promit d'être plus circonspect à l'avenir et en même temps plus attentif aux signaux de Juliette. Ce petit incident lui parut heureux. Jusque-là, il avait été bien reçu, mais il ne se savait pas aimé. Il l'était, puisque Madame de Chevigny le faisait prévenir de l'absence de son mari. Le lendemain, il hasarda une seconde visite. Juliette était à sa place accoutumée. Elle rougit, baissa les yeux et ne fit pas le signe qu'elle avait fait la veille. M. Ferrière monta chez Madame de Chevigny et la trouva seule. Cette observation, plusieurs fois répétée, se trouva toujours juste. Quelques mois se passèrent, et le jeune homme, toujours plus amoureux, toujours mieux reçu, en était encore cependant à espérer un aveu positif. Cependant, un jour, la coquette avait paru plus tendre que de coutume. M. Ferrière sortit de l'hôtel fou de joie. « Elle est à moi !» se dit le jeune homme en rentrant chez lui. Et il passa la nuit à écrire une de ses lettres brûlantes, qui, au style près, rappelle celle de Saint-Preux à Julie. Il appela ensuite le jour de tous ses vœux et le jour venu, l'heure convenable pour se présenter chez Madame de Chevigny, arrivé, M. de Ferrière courut où l'attendait le bonheur. Juliette était à son poste, pâle et pensive. Son regard s'anima. Quand elle vit paraître le jeune homme, elle se leva, laissa sous la porte son petit aimantaire et, joignant cette fois la parole au geste, « N'entrez pas, monsieur !» lui dit-elle, « N'entrez pas !» M. Ferrière maudit le destin qui semblait se jouer de lui, et craignant de tout perdre par une démarche inconsidérée, il rebroussa chemin. Découragé, il errait dans les rues voisines, lorsqu'il se croisa avec un cabriolet dans lequel était M. de Chevigny, qui le salua, et s'éloigna dans une direction opposée à celle de son hôtel. Or, ce cabriolet ne sortait pas de l'hôtel. M. de Chevigny n'était donc pas chez lui. Il retourna alors chez Madame de Chevigny, et malgré les efforts de Juliette qui multipliait les signes et les cris, il monta chez celle qu'il aimait. Une femme de chambre l'arrêta sur le seuil de la porte. « Madame n'est pas visible. »« Pourquoi cela, Marie ? » dit-il en mettant une bourse dans les mains de la soubrette confidente de son amour. « Votre maîtresse m'attend. » « Un frère de monsieur, » dit la servante, « auquel votre visite serait suspecte. Et madame peut être compromise. » M. Ferrières s'en voulut encore de n'avoir pas cru Juliette, et il sortit de l'hôtel, heureux de n'avoir pas été aperçu par ce redoutable frère. Le jour suivant, il se présenta de nouveau. Il consulta du regard la petite mendiante. Celle-ci détourna les yeux. Madame de Chevigny était donc seule. M. Ferrières s'élance, la porte était entr'ouverte. Il entre, personne dans l'antichambre. Il traverse une pièce, deux, et guidé par le bruit du marteau, il pénètre dans le boudoir. La femme de chambre y était entourée d'ouvriers occupés à détendre l'appartement. « Ah, monsieur !» s'écrie la femme de chambre, et elle tire de son tablier de batiste une petite lettre qu'elle remet à M. de Ferrières. « Nous sommes perdus, » lui écrivait Madame de Chevigny. « Mon mari sait tout, ne m'oubliez pas. »« Son mari sait tout, » dit Ferrières, en tirant la femme de chambre dans une chambre non encore envahie par les ouvriers. « Et que sait-il ? » ?»« Votre amour, celui de madame, et dans sa fureur, il a emmené sa femme dans une terre à 100 lieues de Paris. Ils sont partis il y a 1 heure pour ne plus revenir. Pauvre femme, son amour lui coûte cher. » Rien n'est douloureux comme de faire le malheur de ce qu'on aime. Les relations de M. Ferrières et de Madame de Chevigny avaient été pures. Mais il avait été aimé, et au fond du cœur, il sentait qu'à la place de M. de Chevigny, il se serait conduit comme lui. Il aurait éloigné sa femme d'une séduction imminente, et peut-être sa vengeance eût-elle été plus violente encore. Il baissa la tête et sortit de l'hôtel comme un coupable dont l'amour insensé a brisé la vie d'un être faible qui va languir et mourir peut-être sous le joug d'un mari jaloux. Sur le seuil de la porte, il vit Juliette. Pauvre fille, argus intelligent, dont il eût dû peut-être suivre mieux les avis. La mendiante frissonnait sous ses haillons, sa figure chétive exprimait le besoin, ses yeux meurtris le malaise qui naît de privation continuelle. M. Ferrières en eut pitié. Depuis 1 mois au moins, il la voyait tous les jours, et jamais il n'avait songé à soulager cette misère, tellement les passions rendent égoïste. Aujourd'hui qu'il était malheureux, il s'attendrissait. Cette petite fille, d'ailleurs, n'était-elle pas pour Madame de Chevigny une espèce de sauvegarde et de confidente ? N'était-elle pas dans le secret de son amour ? Et maintenant, le seul lien qui le rattacha à son souvenir, il s'approcha d'elle, il l'interrogea, il lui demanda l'histoire de sa vie mesquine et malheureuse. M. Ferrières apprit que Juliette était orpheline. Il sut qu'une femme intéressée la recueillait le soir, grondant si l'enfant ne lui rapportait rien, et lui ouvrant la porte d'un mauvais taudis à la vue de quelques sous arrachés à la pitié publique. M. Ferrières était riche, il avait le cœur bon, et il était amoureux. Pourquoi ne ferait-il pas une bonne action ? Pourquoi, quand Madame de Chevigny aurait apaisé son mari, ne lui présenterait-il pas sa petite protégée fraîche, bien portante et bien élevée ? Ce serait prouver à la jeune femme qu'il ne l'avait pas oubliée, et le lui prouver par un bienfait. Il fit monter Julienne dans sa voiture qui était à quelques pas, la conduisit chez une couturière où on l'habilla des pieds à la tête, et de là, dans une pension de jeune fille dont il connaissait l'institutrice. La petite mendiante fut recommandée comme l'aurait été une parente. Elle savait lire, et on dut compléter son éducation à peine commencée. M. Ferrières acquitta le premier quartier de la pension et s'engagea à payer tous les frais nécessaires jusqu'au moment où il redemanderait sa protégée. « Dans 2 ans, se dit-il, elle sera aussi bien élevée que la fille d'un banquier. Si elle a de la voix, je la ferai chanteuse. Si au contraire, on reconnaît en elle les vertus modestes qui font la femme de ménage, je la marierai avec quelque honnête homme. Et le mari ainsi que la femme me devront leur bonheur. » Cela fait, il n'y songea plus. Il avait bien d'autres choses en tête. Il avait compromis une femme. Il l'avait livrée à la fureur d'un mari jaloux. Madame de Chevigny payait bien cher sa tendresse. Reléguée dans le fond de l'Auvergne, loin de tout secours, dans la maison d'un homme qui pouvait être un nouveau Fayel, qu'était-elle devenue ? Cette pensée occupa 3 mois, M. Ferrières. Elle le poursuivait sans cesse. Il en perdit l'appétit, le sommeil. Ses joues maigrirent. Et ce qui ajoutait à ses douleurs, c'est qu'il ne pouvait aller en Auvergne, où sa présence aurait sans doute aggravé la position d'une épouse infortunée. Le temps et la réflexion adoucirent enfin un peu sa douleur. L'image de Madame de Chevigny ne s'effaça pas de son cœur, mais elle s'affaiblit. Alors il se regarda comme un ingrat. Il se dit qu'il avait inspiré plus d'amour qu'il ne l'avait pris, et cette pensée lui causa quelques remords. Quand on se croit ingrat, on est bien près de l'être. Madame de Chevigny était innocente. Sans doute elle s'est fait pardonner sa coquetterie. Peut-être, tandis qu'il la plaignait et qu'il s'attendrissait sur son sort, vivait-elle en dame de château sans plus songer à lui. Cette pensée le mit à l'aise. Il reprit sa vie ordinaire, il reparut à l'opéra, fréquenta de nouveau ses amis et finit par totalement oublier Madame de Chevigny. Un an s'était ainsi passé lorsqu'il reçut une lettre d'Auvergne. Elle était de la jeune femme ou plutôt de la jeune veuve. Madame de Chevigny était libre. Son mari était mort depuis longtemps. Elle avait voulu par convenance passer en Auvergne le temps de son deuil et elle accourait maintenant auprès de tout ce qu'elle aimait. Son cœur était le même et elle était certaine de celui de M. Ferrières. Du reste, elle arrivait en même temps que sa lettre et espérait voir celui qui l'aimait le lendemain. À cette nouvelle, l'amour du jeune homme se réveilla. L'image effacée reparut et, honteux de ses égarements, il reprit sa chaîne. Il sentit aussi qu'il allait s'engager pour la vie et il s'y résolut. En même temps, il se ressouvint de Juliette, cette petite fille qu'il devait présenter à Madame de Chevigny comme une marque vivante de sa constance. Il avait traité la pauvre enfant comme son premier amour. Il l'avait oubliée. Tous les 6 mois, il recevait une lettre de la maîtresse de pension qui faisait de grands éloges de son élève, suivie d'une quittance parfaitement en règle. M. Ferrières se contentait de payer ce qu'il devait et jetait la lettre au feu. Mais maintenant, Juliette devenait un personnage important pour lui. Plus il était coupable, plus elle lui devenait nécessaire. Il courut au pensionnat et demanda à voir la jeune fille. « Oh, monsieur, dit la maîtresse de pension, vous ne la reconnaîtrez plus. Jamais bienfait ne fut mieux placé. C'est ma meilleure élève. » Du parloir où on avait introduit M. Ferrières, on entendait les sons d'un piano touché par une main habile et légère. « Voilà quelqu'un qui touche merveilleusement du piano, dit M. Ferrières. « C'est Juliette, répondit la maîtresse. Elle ouvrit une porte et appela la jeune élève. Juliette tourna la tête et aperçoit M. Ferrières, elle poussa un cri et se leva, tremblante, pour aller au-devant de son bienfaiteur. Et quelle différence, grand Dieu, de la petite mendiante qui se traînait en haillons sous la porte cochère de Madame de Chevigny à la jeune personne qu'avait sous les yeux M. Ferrières. Juliette avait grandi, sa taille s'était développée, l'ivoire de son teint faisait ressortir ses grands yeux noirs, ses cheveux de jais retomblaient en boucles élégantes sur son front, qui avait repris toute sa fraîcheur et son éclat. Ses petites mains blanches avaient une perfection peu commune, et ses lèvres roses laissaient apercevoir deux rangées de petites dents blanches et égales. M. Ferrières fut ébloui. Il n'osait en croire ses yeux, et quand Juliette se précipita vers lui pour baiser sa main, ce fut lui qui s'empara de la main de la jeune fille et la porta à ses lèvres. « Voilà donc votre ouvrage, » dit-il à la maîtresse de pension. « Non, monsieur, tout vient de Juliette elle-même, dont le travail et l'intelligence ont opéré ce miracle. « Il y a autre chose, » ajouta l'institutrice, « qui a beaucoup contribué au progrès de mademoiselle. « Et quoi donc ?» demanda M. Ferrières. « Vous, monsieur, le désir de vous plaire, ou plutôt de reconnaître ce que vous faites pour elle. » Tandis que la jeune fille rougissait et baissait les yeux, M. Ferrières demanda à demeurer un instant seul avec elle. Et plus l'entretien se prolongeait, plus s'éloignait aussi le souvenir de Madame de Chevigny, pour laquelle seul il était venu. Enfin, l'heure arrivant où la convenance l'obligea à se retirer. « Ma chère Juliette, lui dit-il, une femme qui s'intéresse beaucoup à vous est revenue à Paris. J'irai la voir demain. Nous parlerons beaucoup de vous et elle sera ravie de tout ce que je lui apprendrai. « Une femme, monsieur, dit Juliette, qui s'intéresse à moi. Mais dans le monde, vous seul, depuis que j'existe, y avez pris intérêt. Votre mémoire vous trompe, Juliette, vous oubliez quelqu'un. Non, monsieur, je vous assure, Madame de Chevigny. » À ce nom, la pauvre fille pâlit et tomba évanouie dans les bras du jeune homme. M. Ferrières sonna, appela du secours, et ayant remis Juliette dans les mains de sa maîtresse, il sortit, ne sachant pas s'il devait attribuer cette pâmoison au plaisir qu'aurait Juliette à revoir Madame de Chevigny, ou à la honte qu'elle avait éprouvée à entendre rappeler une époque malheureuse pour elle. Il passa une nuit agitée, alternativement poursuivie par l'image de Juliette et le souvenir de la jeune veuve. Le lendemain, Madame de Chevigny l'avait emportée, et il se rendit chez elle, cette fois ouvertement, dans une voiture avec des domestiques à sa livrée. « Je ne trouverai plus Juliette sur le seuil de la porte, » pensa-t-il. Entraîné par cette idée, il s'avance vers la portière pour voir au moins le petit banc de pierre occupé autrefois par la jeune fille. Oh ciel ! Il l'aperçoit. Oui, c'est elle, c'est Juliette. C'est Juliette qu'il a vue la veille, si proprement parée, quittant un piano qu'elle avait si harmonieusement fait résonner. Elle est là, sur le seuil de la porte, avec ses haillons d'il y a 15 mois, son éventaire, sa pâleur. Seulement, le front n'est plus plissé ni jauni par la misère. Les mains ne sont pas hâlées par le soleil, et si les yeux pleurent, ils ne sont pas cernés par la fièvre. « Juliette, Juliette » s'écrie-t-il. La jeune fille lui fait le même signe qu'elle lui faisait autrefois. « Non, non, n'entrez pas !» lui dit-elle. Ne se fait rien, ne sait où il en est. Il se tâte, il veut croire à une illusion. Mais très sûr à la fin de n'être le jouet d'aucune fascination, il fait arrêter, il descend, prend Juliette par la main, la fait entrer avec lui dans sa voiture et ordonne au cocher de le reconduire chez lui. « Voyons, Juliette, expliquez-vous, parlez, que signifie cette conduite? Pourquoi êtes-vous dans ce costume à cette porte ?» La jeune fille ne répondait que par ses larmes. « Eh bien, reprit M. Ferrière, répondez seulement à une question. Lorsqu'il y a plus d'un an, vous étiez à la porte de Madame de Chevigny, et que vous aviez m'éloigné si à propos de chez elle. Vous suiviez les ordres de cette dame, n'est-il pas vrai ?»« Moi, monsieur, du tout, » dit Juliette en sanglotant. « Je ne connais pas cette femme. Elle ne m'a jamais parlé, ni moi à elle. »« Alors pourquoi agissiez-vous ainsi ?»« Par intérêt pour vous, monsieur. Une sorte d'instinct m'avait fait deviner votre amour. Je savais le mari jaloux, et je craignais qu'il ne vous arrive à malheur. »« Mais vous souvenez-vous d'un jour, Juliette ?» où vous me fîtes signe de ne pas entrer, où néanmoins le mari était absent. C'est qu'il y avait un autre monsieur. Un autre? Le frère de monsieur de Chevigny? Du tout. Un jeune homme que madame de Chevigny aime depuis l'enfance et qu'elle n'a pas pu épouser, parce qu'aucun d'eux n'était riche. Vous, on vous accueillait pour donner le change au mari, pour diriger sur vous des soupçons qu'on détournait ainsi de la personne aimée. Ah, si j'avais pu parler! Mais monsieur de Chevigny n'a pas été dupe. Il a découvert toute l'intrigue, et après une scène violente, il a emmené sa femme loin de Paris. « Ah, monsieur, hier je n'ai rien osé dire. Cette pudeur de jeune fille qui est naturelle en moi et que grâce à vous encore on m'a enseignée, m'a fermé la bouche. Pour avoir du courage, j'ai repris mes habits de mendiante. Ah, monsieur, n'épousez pas madame de Chevigny. Elle ne vous aime pas, elle en aime un autre. Son mari étant mort sans enfant, et peut-être peu content d'elle, ne lui aura rien laissé. » Et elle est capable de sacrifier encore une fois son amour à sa fortune. » Le soir même, M. Ferrière partit avec Juliette pour la Normandie. 3 mois après, ils étaient mariés. C'était Juliette par Marie Écart.